14 jusqu'au verset 21. Alors à partir du verset 14, chapitre 8, Marc chapitre 8, 14 à 21. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux et ne voyez-vous pas, ayant des oreilles et n'entendez-vous pas, et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les pains, les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de pains, de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains et pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Voilà. C'est donc dans ce texte, on voit qu'il y a 2 multiplications des pains. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit. Donc ce n'est pas une erreur de... Quoique dans Matthieu, il y a 2 multiplications des pains. Mais... Et Marc donc nous signale qu'il y en a eu 2. Mais la première chose que je voudrais remarquer, c'est que Marc est un témoin oculaire. N'est pas un témoin oculaire, mais celui qui a parlé à Marc est un témoin oculaire. Parce que dans bien des endroits de l'évangile de Marc, on découvre des petits détails qui nous montrent que celui qui a parlé à Marc était un témoin oculaire de première main. Alors bien sûr, la tradition qui nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui nous dit que c'est Pierre. Et en effet, Pierre, Marc était pasteur à Alexandrie, et Pierre était pasteur dans un quartier de ce qu'on appelle aujourd'hui le Caire, qui s'appelait Babylone. Voilà, j'ai retrouvé dans des vieux écrits du XVIIIe siècle des relations d'un voyageur qui était allé au Caire et il a dit que au Caire il y avait un quartier qui s'appelait Babylone. Alors cela nous éclaire sur ce fameux Babylone de Pierre. Hein. Donc voilà, je ne veux pas aller plus loin parce qu'il y aurait encore quelques petites choses à dire, mais c'est ça n'a pas une grande importance. Mais c'est pour souligner le fait que quand même Marc n'a pas, ce ne sont pas des oui-dire, ce ne sont pas des parlottes, des choses qui ont été dites, redites à droite et à gauche. Mais quand Marc a écrit, c'est le témoignage de Pierre. Et Pierre était un témoin non seulement oculaire, mais un témoin immédiat. Il était dans l'environnement immédiat du Seigneur Jésus. Il y avait 3 disciples qui étaient les plus proches du Seigneur Jésus. C'est Pierre, Jacques et Jean. Donc les 3 là, c'était le noyau central. C'est si le Seigneur Jésus parlait à 3 personnes, c'était ceux-là. Les autres venaient ensuite, malgré qu'ils étaient les 12, c'était le deuxième cercle, les 12. Le premier, c'était ces 3 là. Et donc Pierre a donné son témoignage, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Et là, nous voyons que les disciples n'avaient pas pris de pain. Bon, ils n'avaient pas pris assez de pain. Ils n'avaient pris qu'un. Voilà. Donc, en fait, si le texte qui est presque immédiatement avant, c'est la multiplication des chapitres 8, hein, les premiers versets du chapitre 8, chapitre 1 à 9, nous parlent de la deuxième multiplication des pains. Donc, quand le Seigneur Jésus a parlé de cette histoire de levain, eh bien, il leur restait encore un pain. Voilà. Donc il y avait cette référence. Le Seigneur Jésus, je pense, saisissait toutes les occasions de pouvoir donner un enseignement qui soit saisissable, excusez-moi de le dire comme ça, par des gens simples. C'est-à-dire qu'il n'avait pas un langage philosophique, il n'employait pas des grands mots, mais il avait beaucoup d'illustrations. Il avait beaucoup de références à, par exemple, la Samaritaine. Et oui, la Samaritaine, il lui dit « donne-moi à boire ». Mais il était assis à côté d'un puits. Et cette femme venait chercher à boire, de l'eau. Donc, vous voyez, c'est la méthode du Seigneur Jésus, de toujours saisir l'occasion. Et là, il y avait eu une multiplication des pains, et puis il ne restait plus qu'un pain. Alors le Seigneur Jésus introduit un enseignement, et il leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et d'Hérode. Bien sûr, les disciples ont raisonné, hein, ils se sont dit, oh là là, on n'a pas, le Seigneur Jésus fait une fine allusion pour cette histoire de pain, on n'a pas emporté assez de pain. Alors, le Seigneur Jésus n'a pas voulu leur faire remarquer qu'il n'y avait pas assez de pain, mais il a voulu leur parler du comportement d'Hérode et des pharisiens. Alors, cette histoire de levain, c'est ce que l'on met dans la pâte, hein, pour faire le pain. Si vous avez mettez pas de levain, votre pâte va cuire mais ne va pas prendre du volume. Si vous mettez du levain, eh bien votre pain va être beaucoup plus gros. Mais vous aurez toujours le même poids, hein. Voilà. C'est dans comment dire, cette pensée, levain est une comment dire, c'est quelque chose qui trompe. Vous avez toujours le même poids, mais vous n'avez pas le même volume. C'est-à-dire que c'est gonflé. C'est plus gros que ce que ça devrait être. Voilà. Alors bon, on est bien content de manger du pain avec du levain, hein. On ne condamne pas le pain, on ne condamne pas le levain. Mais c'est vrai que dans la Bible, le levain est une image du péché. Une image de l'hypocrisie, là, dans ce cas-là, c'est l'hypocrisie. C'est le péché aussi. Si vous regardez bien, le peuple d'Israël était tenu à la Pâque, à manger la Pâque avec du pain sans levain. C'est d'ailleurs pour cela que quand nous célébrons la Sainte Cène, notre pain est du pain sans levain. Parce que le levain est synonyme de péché. Et puis le pain de la Sainte Cène représente le corps du Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Et donc le corps du Seigneur était sans péché. Alors il n'y a pas de levain dans cette pâte. Par contre, il y a des sacrifices, disons une fête, c'est la fête des prémices, c'est la fête de Pentecôte. Il y avait deux pains levés. Il fallait qu'ils soient levés. Ce n'était pas des pains sans levain. Et ces deux pains représentent l'Église. C'est l'Église qui est composée des païens et des juifs, et donc il y avait deux pains. Et c'est la fête des prémices, c'est la fête de Pentecôte, c'est là que le Pentecôte, que l'Église a commencé. Et c'est très intéressant de suivre cette piste du levain, parce que le levain, eh bien, dans l'Église, il y a du péché. Il y a des désobéissances, et il y a des choses qu'on regrette. Il y a non seulement dans nos propres vies, mais dans la vie des frères et sœurs, il y a des choses que l'on condamne, qu'on trouve qui sont non seulement déplaisantes, mais elles portent tort à l'Église. Et donc c'est vrai que nous devons considérer qu'il y a du levain dans nos vies et des choses qui ne devraient pas être. Donc quand le Seigneur Jésus a parlé du levain d'Hérode et des pharisiens, c'est en fait les pharisiens représentent le côté religieux et Hérode c'est le côté politique. Donc il y a du levain des deux côtés. Si vous ne pouvez pas dire que ce sont ces hypocrites de pharisiens, mais il y avait cet homme corrompu qui était Hérode aussi, qui avait une manière de vivre qui était scandaleuse et qui scandalisait les Juifs, hein. Les Juifs pieux étaient scandalisés par la vie d'Hérode. Et même vous avez le témoignage de Jean-Baptiste qui était allé voir Hérode, qui lui avait dit qu'il ne devait pas avoir la femme de son frère. Comme si Hérode ne le savait pas, mais il avait besoin que quelqu'un lui rappelle. C'est comme cela. Donc, il y a un levain qui vient de la religion et un levain qui vient de la politique. Voilà. Alors je veux pas faire, comment dire, je ne fais pas d'anti-politique, je suis pas contre ces choses-là, mais dans le système, nous sommes dans un système qui est corrompu. Parce que le prince de ce monde, c'est le diable. Et nous n'avons pas affaire à des personnes qui sont croyantes, à des personnes qui ont souci d'une vie morale, d'une vie propre, d'une vie qui plaise à Dieu. Les gens en politique ne se soucient pas de Dieu et ne cherchent pas à conformer leur vie par rapport aux enseignements bibliques et la parole de Dieu. Donc il y a des comportements qui sont particulièrement mauvais et même des choses scandaleuses qui se passent. On n'entend pas tout, mais il y a quand même pas mal de choses que l'on entend et qui ne sont pas bonnes. Et c'est pour le Seigneur Jésus dit, mais ne les prenez pas pour exemple. Ces personnes-là ne doivent pas motiver votre vie. Et c'est beaucoup de gens se disent, si j'étais riche, si j'étais ceci, si j'avais des, ça irait mieux. Alors bon, bien sûr, Satan bien content d'entendre ce genre de langage et peut encore nous en dire d'autres et nous dire, ben oui, espère bien être un grand homme, être un grand homme politique. Je connais même des gens qui ont chrétiens. Hein. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, si on faisait un peu plus de politique, on pourrait changer pas mal de choses et on servirait de levier dans toutes ces affaires et puis on pourrait dire, et voilà, ce langage-là, vous le connaissez, vous l'avez entendu. Et c'est un langage qui est trompeur, c'est un levain, c'est faux, c'est un mensonge. Parce que une fois que vous y êtes, eh bien vous êtes noyé dans l'ensemble et vous êtes bien obligé de faire les choses que l'on vous dit de faire. Et c'est malheureusement, même les honnêtes sont obligés de faire des compromis, de fermer les yeux, de ne pas dire ce qu'ils voient et ce qu'ils devraient dire, parce que c'est un ami, parce que c'est quelqu'un qui a de l'avenir politique, on ne va pas le descendre, et il est de la même famille politique que nous. Il y a comment dire, une préservation les uns des autres. Je ne veux pas les accabler, hein. C'est pour ça que je dis les choses comme ça. Il y a de braves gens, hein. On pourrait citer des noms, des personnes qui sont dans le piège, hein, qui sont là-dedans, parce que les grands, eh bien, ne sont pas forcément ce que l'on voit. Et c'est eux qui donnent le ton, c'est eux qui dirigent, vraiment. Après, les hommes politiques que l'on voit ne sont pas vraiment ceux qui décident la politique. Je ne veux pas entrer dans ces détails. Mais ce qu'il y a, c'est que il y a une manière de faire, il y a une manière d'être qui est communicatrice, qui se communique, qui fait, comment dire, les gens le voient et se disent, ben, ils le font. Ou tout le monde le fait. Il y a eu un scandale et voilà, on le fait. C'est quand on entend parler d'un scandale. Eh bien, il nous est beaucoup plus facile de le reproduire que si nous sommes de but en blanc devant l'occasion de tomber. Parce que comment dire, on est tout neuf devant cette alternative de la chute. Tandis que si on en a entendu parler, si les médias l'ont bien répété, vous l'entendez pendant 15 jours, vous en entendez parler, et je peux vous dire que certaines affaires, certains scandales, ce n'est pas 15 jours, hein. Ça a été pendant des mois, vous avez entendu qu'il y a eu des malversations, qu'il y a eu ceci, qu'il y a eu ça, et finalement, on finit par s'habituer. Il y a quelque chose qui rentre dans notre pensée, et au bout de 3 mois, nous ne sommes pas aussi scandalisés que la première fois. On a l'habitude d'entendre parler de ces choses. C'est un phénomène de société. Et nous sommes influencés. Et le jour où nous avons une petite entorse à faire, eh bien, c'est beaucoup plus facile parce que nous entendons parler de tout cela à longueur de journée, à longueur d'émissions de télé. On est conditionné. Il y a une sorte de lavage de cerveau. Nous sommes, comment dire, nous sommes manipulés. Parce que nous voyons et ce que nous entendons, il y a bien des choses qui sont, il y a 20 ans, qui scandalisaient les gens. Et aujourd'hui, tout le monde les fait. Pourtant, les gens qui étaient scandalisés il y a 20 ans, je ne dirais pas les choses, hein, parce que c'est sensible. Mais c'était il y a 20 ans, personne n'aurait imaginé qu'un jour ça devrait un phénomène de société, que ça serait dans les mœurs. Mais 20 ans plus tard, avec des films, avec des médias, avec des gens qui en parlent, et des débats, et des philosophes, et des ceci, et des ça, et qui arrivent, eh bien, on finit par être manipulé, être conditionné à accepter l'inacceptable. Et c'est pour cela que je vous dis, faites bien, bien, bien attention. Le Seigneur Jésus a parlé de cela comme d'un levain. Le propre du levain, c'est de faire prendre à une chose des proportions plus grande que ce qu'elle mérite. C'est quelque chose de tout à fait anodin, qui ne mérite même pas notre attention, eh bien devient quelque chose de très important. Parce qu'on en parle, et on en parle, et on en parle, et on le fait, hein, mousser. Hein, c'est comme la mousse, les bulles de savon. C'est où vous remuez l'eau et ça, la mousse augmente et le levain, eh bien, c'est comme ça. Il y a des proportions, les choses secondaires prennent des proportions immenses. Et non seulement des choses secondaires, mais dans le cas du péché, c'est des choses condamnées par la parole de Dieu. C'est clairement condamné. Dieu a dit non. Et nous? Eh bien, on peut entendre parler de ces choses et nous ne sommes plus scandalisés. Et nous sommes chrétiens. Et nous savons qu'il ne faut pas. Mais nous ne le sommes plus. On entend que quelqu'un a détourné des millions d'euros. Voilà, il est gonflé quand même. Hein. On se dit quand même, il aurait pu partager. Il fait tout seul, quand même. Il devrait penser un peu à nous. Je me rappelle d'un frère. Quelqu'un lui avait donné un tapis, un beau tapis, un tapis, ce qui s'appelle un tapis d'Orient, c'est-à-dire un tapis fabriqué à la main. Et je vais vous dire, si j'avais l'argent pour m'acheter un tapis fabriqué à la main, je ne l'achèterais pas, parce que je sais comment fa sont fabriqués ces tapis. C'est fabriqué par des petites filles qui ont 6, 7 ans, 8 ans. Au lieu d'aller à l'école, elle fabrique des tapis, vos tapis dans lesquels vous mettez vos pieds qui sont jusqu'à vos chevilles. Hein. Et ces beaux tapis, si magnifiques, c'est la ruine d'une âme, c'est la ruine d'une personne. C'est parce que ce ne sont que des filles. Mais à 10-12 ans, ces petites filles sont quasiment aveugles parce qu'elles ne peuvent plus coudre, elles ne peuvent plus faire ces fils qui sont si petits, il faut faire des tout petits nœuds. Hein. Et c'est chaque fil, il y a un nœud. Et plus le fil est fin, et plus il faut que la personne y mette de l'attention et sa vue. Bon, bref, c'est une abomination. Pour moi, on ne devrait même pas autoriser. On n'accepte pas l'ivoire qui vient d'Afrique, ni les cornes de rhinocéros et les machins comme ça. Et on accepte des tapis qui servent à faire qui ruinent la vie d'une petite fille. Pour moi, et des petites filles, parce que pour un tapis, il faut au moins une dizaine de petites filles. Hein. C'est une abomination. Mais le frère, on lui avait donné un beau tapis comme ça. Et alors, bon, il avait bien accepté. Et puis, au bout d'un certain temps, il lui a dit, mais comment tu l'as eu ce tapis? Oh, tu sais, c'est un ami qui a des relations dans un magasin. Bon, c'est ce qu'on appelle tomber du camion. C'est en beau terme. C'est-à-dire que ça avait été volé, carrément. Et le frère était scandalisé, mais il a dit, mais ce tapis-là, j'en veux pas. Prends-le, ton tapis. Il a dit, déménage avec ça, hein? J'en veux pas chez moi. Ce qui est volé n'entre pas chez moi. Écoutez, nous sommes chrétiens. Vous n'avez pas volé dans les magasins? Je me rappelle d'une dame, son mari avait volé dans le magasin. Et quand il lui a dit, ah ben ça m'a rien coûté. Il a dit, mais ça, je n'en veux pas à la maison. C'était quasiment le commencement de leur désaccord et ça finit par un divorce, cette histoire-là. Mais elle a dit, le pain que mangent mes enfants, c'est un pain qui est gagné honnêtement. Mais à force qu'on entende, il y a des affaires, l'un il a trompé, il y a un milliard de ceci, il y a un milliard de ça, il y a eu des tournements, il y a eu, et on voit des films où le bandit c'est un bel homme, il est gentil, il est beau, toutes les jeunes filles sont d'accord pour être amoureuses de lui. Mais attention, il est un peu voleur hein, quand même, vous en faites pas. Oh mais non, il est beau, hein, ça excuse tout. Eh bien, vous êtes manipulé. Vous êtes trompé. Parce que c'est un crime de voler son prochain. Qu'est-ce qu'on a volé? Son travail. Cet homme a dû travailler pour avoir ce que l'on a volé. Vous savez, et tout cela, quand vous regardez tous les films, toutes les petites histoires qui sont racontées, toutes ces choses, c'est du levain. C'est quelque chose qui travaille dans votre vie, qui joue contre vous, qui joue contre votre vie chrétienne, qui vous amoindrit dans votre vie chrétienne, qui abaisse le niveau de votre vie chrétienne. Vous n'êtes plus sur vos gardes. Il est si beau. Oh ben, et puis elle est gentille aussi, hein. Je me rappelle d'un film. C'était un, bien sûr, cette femme était méchante, comme c'est pas possible, hein. Et le mari, eh bien, il commençait à tomber amoureux de la secrétaire. Et alors, c'est, mais vraiment, hein, on commençait par vraiment, elle était épouvantable, hein, la femme. Et puis ça se continuait. Et la femme était quand même épouvantable, hein. Et la secrétaire, qu'est-ce qu'elle était gentille, qu'est-ce qu'elle était prévenante, et tout le film tourne autour de ça, hein. Et puis à un certain moment, la secrétaire était dans l'avion et le mari qui quittait définitivement sa femme courait parce qu'il était en retard pour prendre l'avion. Et c'était le suspense, hein, vous savez quel suspense. Est-ce que cette femme va rattraper cette méchante? Elle va rattraper cet homme si gentil qui veut être avec sa secrétaire? Et finalement, ouf, au dernier moment, ah là là, il a réussi à s'envoler avec sa. Oh là là, comme l'adultère est beau, hein. Mais je vous dis, on vous joue sur vos sentiments, parce que. Et moi, j'ai regardé ce film, et je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de regarder? Et quand j'ai compris les sentiments, ce qui était en moi, ce suspense, qu'est-ce que j'attendais? Qu'il attrape cet avion et qu'il concrétise son adultère. Mais je me suis dit, mais tu adultères avec cet homme-là. J'étais scandalisé. Je me suis dit, quand même, tu en es là. On a réussi à te manipuler. Tu es pourtant averti. Tu le sais. Et tu es manipulé et au point de désirer que l'adultère se concrétise, qu'il se fasse. Il pouvait pas y avoir quelqu'un qui parle avec cet homme et cette femme et qui les amène à résoudre leurs problèmes. C'est peut-être que le problème avait une solution. Les problèmes n'ont pas toujours des solutions, hein, je peux vous le dire. Mais parfois, je pense que 90% des échecs pourraient être évités simplement avec une bonne discussion, en aidant la personne, l'aidant à avancer, à comprendre les choses, je sais pas. Et par la prière, il aurait pu y avoir quelque chose. Mais non, là, c'était l'adultère. Mais là, il faut que, hein, on veut nous éduquer. Donc nous sommes manipulés, conditionnés à être un jour à tomber, parce que nous avons tellement vu de vols, d'adultères, de meurtres et de toutes ces choses et de gens, des justifiés. Ah, on prend un revolver là, on tue le voisin. Quand même, il fait trop de bruit, hein. Vous vous rendez compte? Et puis ça arrive dans la vie. Et vous dites, mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'on nous manipule, et nous sommes fragiles. Vous pensez que vous êtes très fort, vous, il n'y a pas de problème. Moi, je le pensais aussi. Je vous ai raconté cette histoire de film, et je peux vous dire que j'étais pris au piège, et je le savais. Bon, bien sûr, avant la fin du film, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu penses? Et tu en es où, là? J'ai réagi. Mais je me suis dit que quand même, il y a pratiquement toutes les personnes qui ont regardé le film, eh bien, ont été pris au piège et se sont dit, mais vivement l'adultère, vivement que l'on détruise les couples et les familles. C'est quelque chose qui, bon, enfin, et je vous cite cet exemple, mais c'est dans les séries télévisées, vous avez toutes ces choses. Pour ça, je regarde pas tout ça, hein, parce que on manipule, on nous apprend que c'est facile, qu'on peut flirter avec la femme du voisin, que le voisin, il est très beau, il a une belle voiture, et que après tout, il est sympathique, etc., etc. Et si vous regardez, vous verrez le nombre de personnes qui sont manipulées, séduites et trompées, et qui sont emmenés dans un mauvais chemin. Et beaucoup de chrétiens, nous pouvons être dans ce piège, parce que c'est tellement facile. C'est un levain, c'est quelque chose qui est semé dans notre cœur, et qui travaille en nous, et qui portera du fruit en nous, et qui nous détruira, non seulement notre vie, mais qui détruira aussi nos relations et notre manière d'être avec les autres. C'est qui peut détruire votre couple, qui veut vous empêcher d'être heureux et d'être dans la paix de Dieu. C'est quelque chose de terrible, vous savez. Quand nous passons du temps comment dire, nous sommes des manipulés volontaires. Et nous sommes là, trouvons même que c'est très bien qu'on nous rend service. Beaucoup de gens disent quand même, qu'est-ce qu'on ferait sans la télé, hein? Mais bon, après, je ne veux pas m'attarder sur la télé, parce qu'il y a d'autres médias, il y a d'autres choses qui nous manipulent. Mais en fait, qu'est-ce qui nous garde? Qu'est-ce qui nous sauvegarde? Qu'est-ce qui nous protège? C'est la parole de Dieu. Combien de temps passons-nous à lire et à méditer la parole de Dieu? Les enseignements de. Là, on est dans les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, ceux qu'il a prononcés devant la foule. C'est cet enseignement, et bien souvent, la plupart du temps, nous le mettons de côté. Et nous ne sommes pas très attirés par tout ça. Par contre, si on vous un bon film, là, il y a un bon ceci ou cela, je ne dis pas les noms, je les connais pas d'ailleurs. Ça ne m'intéresse pas. Mais ce qu'il y a, c'est que il n'y a pas un contrepoids dans notre vie qui travaille à nous faire grandir, à nous mettre en garde, qui travaille notre conscience, qui nous façonne dans notre pensée, dans nos réactions, dans notre manière d'être. Si bien que notre manière d'être est conditionnée par les médias, par notre entourage, par le voisin, par la voisine, par ce que disent un tel et un tel et une telle, et ce que nous apprenons à l'école, toutes ces choses-là nous manipulent, nous transforment, nous changent, et puis font de nous ce que nous sommes, et parfois le chrétien médiocre que nous sommes, le chrétien qui traîne les pieds pour aller à l'église, le chrétien qui se dit, oh là là, il y en a un, encore une fois, voilà, c'est parce que nous sommes manipulés, trompés, c'est un levain. C'est quelque chose qui travaille dans notre vie en secret, en silence, petit à petit. C'est comme une maladie. C'est la plupart des gens qui ont un cancer, eh bien, ne se sont pas dit, tiens, j'ai un cancer. C'est au bout d'un certain temps, il y a les symptômes qui se manifestent. Ils disent, c'est bizarre, ça, il y a une boule là. Et puis, le médecin dit, pourquoi vous arrivez si tard? Parce que la maladie a fait son œuvre en silence, tranquillement, sans se faire apercevoir. Et le jour où on la voit, eh bien parfois c'est trop tard. Et c'est comme cela pour le levain de ce monde, pour les choses de ce monde. Combien de personnes ont commencé avec une petite chose? C'est le propre du levain, et c'est ce que j'ai dit aux étudiants ce matin. C'est le péché, c'est un levain. Si vous croyez que c'est un petit péché, ce n'est pas grand-chose. Ça ne porte préjudice qu'à moi. Et encore, c'est bien peu. Parce que, bon, c'est un petit mensonge, c'est une petite chose. Mais le péché, par sa nature, c'est un levain. C'est quelque chose qui prend des proportions. Parce que le péché transforme notre vie, transforme notre manière d'être, notre relation avec Dieu. C'est un petit péché, hein, admettons que c'est un petit péché, hein, petite chose, petite conséquence, pas grand-chose, hein. Mais il y a une transformation à l'intérieur. Il y a un changement par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Nous devons non plus durs. Il y a plus de jugement. Il y a moins d'amour. Il y a plus de lenteur à faire ce que Dieu nous demande. Oh, c'était un tout petit péché. Mais les conséquences. C'est que nous nous attiédissons, nous nous alourdissons spirituellement. Et puis, un péché plus grave se présente. Nous avons beaucoup plus de facilité à le faire. Et puis, il est de plus en plus grave, de plus en plus grave, de plus en plus grave. Ça a commencé par une petite chose. Admettons que c'est une petite chose, hein. Mais, du point de vue de beaucoup de gens, c'est une petite chose. Parce que ça porte pas beaucoup de conséquences. Mais ça a changé notre cœur. Ça a changé notre vie. Nous sommes devenus de moins bons chrétiens. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Notre cœur s'est endurci. Et Dieu n'est plus l'ami que nous avions dans le passé. C'est comme cela que les chrétiens sont rétrogrades. C'est comme cela que les chrétiens s'attiédissent, se perdent. Vous dites, mais quand même, il y a 20 ans, c'était un chrétien bouillant, zélé, consacré. Aujourd'hui, où il en est? On est obligé de le traîner à l'église. Pourquoi? C'était une petite chose qui a commencé dans sa vie. C'est du levain. C'est une petite chose toute petite qui s'est introduite dans la vie et au fur et à mesure elle a grandi. Elle a grandi et elle a changé notre manière de penser, notre manière d'être, notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Et je le répète parce que c'est important que vous le sachiez. Ne regardez pas une petite désobéissance comme pas grand-chose. Ça va vous conduire très loin de Dieu. et vous amener dans la désobéissance. C'est, je peux vous dire, parfois, vous êtes au courant d'un péché dans la vie de quelqu'un d'autre. Et tout va bien. Voilà, tout va bien. Et ça m'est arrivé, hein. Je me rappelle, c'était une réunion de prière d'ailleurs, hein. Bonne réunion de prière, nous étions beaucoup de personnes à aller chez ces gens. Réunion de prière, oh, c'était magnifique, la belle réunion de prière. Et alors on priait pour les uns, pour les autres, et oui, mais celui-là, il est lourd quand même, hein. Il a besoin qu'on prie pour lui parce qu'il n'est pas tout seul, hein. Et puis celui-là, quand même, il est, oui, mais il est ceci, il est ça, il faudrait prier pour lui parce que. Et puis, un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, ce couple chez lequel vous allez. Ben, ils sont divorcés, chacun de leur côté, hein, ils vivent maritalement. Comment non, c'est pas possible. Si, 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 si. Ils ont même un enfant de leur adultère, hein. Et puis c'est avéré, c'était vrai. Mais cette fameuse réunion de prière, ça a dégénéré en médisance, en calomnie et tout ça. Et un jour, je l'ai dit, je leur ai dit, je ne peux plus être là. Parce que sous prétexte de prier, nous sommes en train de parler mal les uns des autres. Oh, après, il y a la réunion de prière, mais ce n'est qu'une façade. Vous vous rendez compte de l'hypocrisie de la chose? Et là, c'est le levain des pharisiens. C'est le levain des pharisiens. On est de bons chrétiens, on est à une réunion de prière. Amen. Qui va condamner une réunion de prière? Oui, mais comment vous la commencez, votre réunion de prière? Par des médisances? Par des calomnies? Par des rabaisser un chrétien? Apprendre aux uns et aux autres des choses qui dire ceci et cela? C'est un scandale. Ce n'est pas une réunion de prière. Comment? Vous allez fermer les yeux et prononcer des paroles en fermant les yeux? Vous appelez ça de la prière? Mais la prière, c'est quelque chose qui vient du cœur. Il y a une communication avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et là, nous étions dans une réunion de calomnie, de médisance, de commérage et de choses abominables. Et je l'ai dénoncé. Et un jour, cet homme est arrivé dans l'église et il en a raconté. Quand il a appris que j'avais parlé, que je disais, et alors là, il a montré son vrai visage. C'était un démon, un véritable démon. Il a parlé sur les uns et les autres, tout ce qui avait été raconté sur les autres. Et il a dit ça, il a parlé de toi et tout. Et il en a dit, il nous a mis les uns contre les autres, il a divisé. Et là, on a dit, attention, arrêtons. On est coupable. On est coupable. On a parlé mal les uns des autres, mais on croyait qu'on priait. On partageait des sujets de prière. Des besoins de l'Église, des besoins des frères et sœurs en Christ, mais c'était des calomnies et des médisances. C'est, je peux vous dire, ça c'est le levain des scribes et des pharisiens, de ceux qui se prétendent de bons chrétiens et qui parlent les uns et les autres et qui salissent la réputation des uns et des autres et qui font du mal aux uns et aux autres. C'est, on est sous prétexte d'une réunion de prière. C'est pour cela quand. Souvent, des personnes disent, j'aimerais bien que l'on prie avec un frère. Mon frère, ma sœur, si vous vous mettez à deux pour prier, priez. Mais ne parlez pas des uns et des autres et des problèmes de l'Église. Priez. Je peux vous dire que l'on peut tomber dans le piège du levain des scribes et des pharisiens qui paraissent de bons chrétiens. Nous, nous prions. Nous, nous allons à toutes les réunions. Nous, nous faisons ceci. Nous, nous faisons cela. Mais dans la réalité, nous nous conduisons comme le diable. Parce que nous sommes ennemis les uns des autres et nous faisons des choses qui, si c'était, on le disait devant tout le monde, eh bien, on rougirait de honte. C'est, si vous n'aimez pas que l'on parle de vous, ne parlez pas des autres. C'est mon principe, hein. Je n'aime pas que l'on parle de moi, donc je ne parle pas des autres. J'évite au maximum de renseigner ou de me renseigner sur les uns et sur les autres. C'est une très mauvaise chose. Et ça s'appelle le levain des scribes et des pharisiens. Parce que ce sont des choses qui augmentent, qui grandissent, qui ruinent une église. Combien d'églises ont été divisées? Combien d'églises se sont pulvérisées? Parce qu'il y avait le levain des scribes et des pharisiens. Ah, moi, je suis un bon chrétien, moi. Les autres, ouais, je ne vous dis pas, hein. Mais moi, ça va. Je vais vous dire une chose que je vous avoue et je me confesse devant vous. Mon pire ennemi, c'est moi-même. Et je peux vous dire, s'il y a une personne que je veux condamner, c'est moi-même. Parce que c'est mon pire handicap dans la vie chrétienne, c'est moi. Ce ne sont pas les autres. Et je vais vous dire, nous en sommes tous là. c'est nous n'avons pas besoin du diable, nous n'avons pas besoin d'avoir des ennemis. Il suffit simplement que nous soyons avec nous-mêmes. Si un chrétien, le chrétien qui m'empêche de grandir dans ma vie chrétienne, c'est moi. Le chrétien qui est négligent dans la vie chrétienne, c'est moi. Le chrétien qui n'est pas ce qui est à la hauteur de sa vie chrétienne, et c'est moi. Et je peux vous dire, tous les jours, et même parfois plusieurs fois par jour, je demande pardon à Dieu s'il y a de l'hypocrisie dans mon cœur, parce que je suis un hypocrite. Combien de fois on se cache, on essaie de paraître ce que l'on n'est pas. Oh, si il faut pas que je fasse ceci ou que je fasse ça, on pourrait penser que je suis ce que je suis. Alors je le fais pas, parce que les gens pourraient être au courant et se douter que je suis pas aussi bon chrétien que ça. Alors on fait les choses pour paraître un bon chrétien. Mais si vous faites les choses pour paraître un bon chrétien, mais vous êtes un hypocrite. C'est le levain des scribes et des pharisiens. Vous êtes le chrétien que vous êtes. Soyez-le à la maison, soyez-le à l'église. Mais nous sommes le bon chrétien à l'église, à la maison. Certains, c'est le diable, hein. Il y a un proverbe, hein, dans le catholicisme, hein, c'est sur les bigotes, hein. C'est des saintes à l'église et des démons à la maison. Je me rappelle de cette réflexion celui qui épousera cette chrétienne fera son purgatoire sur la terre. Ah, mais je peux vous dire, parce que c'est les hypocrites, les menteurs, les gens qui paraissent. Mais si il y a une chose que vous devez avoir en abomination, c'est de paraître ce que vous n'êtes pas. Vous avez un problème, vous l'avez. Dites-le. Nous sommes des frères et sœurs. Moi aussi, j'ai des problèmes. Vous en avez? Je vous apprends rien en vous disant que j'ai des problèmes. Nous avons tous des problèmes, vous pouvez vous en douter. On se bat pour grandir dans la vie chrétienne et nous en sommes tous là. Il y a quelque chose qui pèse, qui nous empêche d'avancer aussi bien que ce que nous. Mais nous sommes tous là. Et il y a toujours un combat, il y a toujours une lutte. Alors nous ne vous allons pas paraître le chrétien joyeux, ah voilà, c'est merveilleux, ah là là, le Seigneur est grand, le Seigneur nous bénit, le Seigneur ceci. Je connais des mouvements où c'est comme cela. On vous dit, ah Amen, le Seigneur est là, gloire à Dieu. Et puis vous apprenez un jour qu'il a détourné de l'argent de son patron et qu'il est parti avec la copine et des machins comme ça. C'est quand même. Et les inconvertis le savent et ils sont scandalisés. Et souvent, quand ils ne se convertissent pas, je me rappelle d'un qui je faisais des distributions et un jour quelqu'un m'a dit, mais tu es de quelle église? Belle église qui est là-bas? Ton traité, tiens, garde-le. J'en veux pas. Je dis, pourquoi? Tu le sais pourquoi? Pourquoi? J'ai appris plus tard les scandales qu'il y avait eu dans cette église. Les scandales. Et les gens le savaient. Et moi, j'étais le seul à ne pas le savoir, justement. J'étais nouveau, j'arrivais. Mais c'est comme cela. Mais nous devons faire attention. C'est qu'un pasteur qui avait prêché cela dans un message, il disait que la croix de Christ a été ébranlée par les chrétiens. Pas par les inconvertis. Quand les inconvertis se sont attaqués à l'Église et à la foi chrétienne, au contraire, ils ont amené la foi chrétienne et l'Église à grandir. Mais les chrétiens travaillent à détruire l'Église. Par notre mauvais comportement, par nos hypocrisies, par nos mensonges, par le paraître. Le paraître. Ne montrez pas plus que ce que vous êtes. N'essayez pas de paraître. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et c'est condamné. Et donc le Seigneur Jésus a donné, il n'a pas dit gardez-vous du levain des scribes et des pharisiens, il a dit gardez-vous avec soin. Soyez méticuleux. Visitez-vous souvent. Ne faites pas, regardez où vous en êtes. Faites attention. Parce que le pharisien, le pire qui puisse exister pour vous, c'est vous-même. C'est celui qui dort en vous. Et c'est celui qui là qui peut vous détruire et qui peut vous amener loin de Dieu. Alors faites bien attention. Le Seigneur Jésus n'a pas beaucoup, comment dire, les disciples ont cru qu'il avait parlé à cause du manque de pain. Mais qu'est-ce que le manque de pain, quelle était cette importance de manque de pain? L'important, c'était d'avoir une vie pure, une vie droite, une vie où on fait attention à ce que l'on fait et ce que nous sommes. et que nous ne nous laissons pas manipuler et emmener dans tous les par le premier venu et le premier beau parleur. C'est et le Seigneur Jésus a été obligé de leur dire, mais attendez, si on a besoin de pain matériel, vous me connaissez, hein, c'est ce qu'il veut dire. Rappelez-vous, si on manque de pain, est-ce que je suis incapable de multiplier encore une troisième fois du pain? Il y a deux multiplications des pains. Ça vous suffit pas? Si je vous parle de cette manière-là, c'est parce que vous avez besoin d'apprendre certaines choses. Et il leur dit encore, ne comprenez-vous pas? Ne comprenez-vous pas? Nous devons faire attention. Regardez ce qu'il dit aussi. Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Ces deux fois, il leur dit, ne comprenez-vous pas? Vos yeux ne s'ouvrent-ils pas? Ne voyez-vous pas où est le problème? C'est, je peux vous dire, mes frères et sœurs, soyez en vigilant. Ne faisons pas les choses légèrement. La vie chrétienne, vous savez, c'est une vie réelle. C'est une vie propre, c'est une vie en relation avec Dieu. C'est le grand Dieu qui est notre Dieu. C'est en lui que nous nous reposons. C'est Christ qui est notre Sauveur. C'est nous prions de vraies prières. Il y a une vraie relation avec Dieu. Ce n'est pas une façade. Nous ne sommes pas les acteurs d'un théâtre. Nous vivons une vie réelle, quelque chose de vrai, de sérieux, de profond. On ne joue pas avec ces choses-là. Parce qu'il y a le grand Dieu, le Dieu tout-puissant. Et quand vous réalisez, arrêtez-vous et dites-vous, voilà, je vais prier. Je vais prier maintenant. Je vais prier le grand Dieu. Je prie le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel, le Dieu qui sonde les cœurs et les pensées, le cœur, mon cœur. Si je me présente devant lui, il voit au fin fond de moi-même, mieux que moi-même. Je ne me connais pas comme lui me connaît. Il sait des choses que moi même j'ai oubliées. Il peut dire, tu as un problème là, et le voir avant même que j'ouvre la bouche et que je constate quoi que ce soit. Dieu sonde nos cœurs, et c'est de lui que nous nous approchons. C'est de lui que nous sommes les disciples. C'est lui que nous adorons. C'est lui que nous recherchons. C'est sa parole que nous méditons. Ce ne sont pas des petites choses, vous savez. Ce ne sont pas des, c'est pas une religion, c'est pas du bouddhisme ou du, je sais pas quoi. C'est la religion de Dieu. C'est la foi. C'est ce que Dieu nous a enseigné, ce qu'il nous a révélé. C'est quelque chose qui est venu jusqu'à nous. Le Fils de Dieu a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Nous ne pouvons pas la brader pour les discours d'un homme politique ou d'un acteur de cinéma ou de je ne sais quoi, un philosophe et de tous ces gens. Après, je vous dis pas, ne les écoutez pas, mais faites attention comment vous les écoutez. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous comprenez. Faites attention à ce qui manipule votre vie et à ce qui vous influence. C'est qu'est-ce qui prend le plus d'importance dans votre vie? Est-ce que vous vous réjouissez d'être chrétien? Est-ce que vous êtes heureux dans la situation dans laquelle vous êtes? Est-ce que vous rendez grâce à Dieu en toutes choses? Est-ce que sa parole fait vos délices et votre joie? Si vous dites peut-être, pas beaucoup, de temps en temps, révisez votre vie, parce qu'elle n'est pas tout à fait en règle. Vous êtes laissé captiver. Vous avez laissé le monde prendre votre cœur. Vous avez laissé des choses qui n'avaient pas d'importance devenir importantes pour vous. Elles vous ont séduite et vous êtes en train de, elles sont en train de grandir dans votre vie et de prendre de plus en plus de place et de salir votre vie et vous empêcher de vous épanouir dans votre vie chrétienne. Faites bien attention. Soyez des sages. Soyez vigilants. Veillez avec soin au levain des scribes et des pharisiens.
Merci. Je suggère qu'on ait un moment justement de prière. Et ça peut être un moment de prière silencieuse où chacun se place devant Dieu, qui laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en nos cœurs. Prions. Le Seigneur a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Chantons les strophes de ce cantique suivante, mon âme en silence. J'ai pas la mélodie là. Pas la mélodie? Merci. Ouais. Parole bénie de mon Rédempteur, parole de vie, pénètre en mon cœur. Oui, daigne m'instruire, et dis tout, Seigneur, ce que tu dois dire à ton serviteur. Seigneur, je t'écoute, Seigneur, parle-moi, sans crainte ni doute, je m'attends à toi. Les annonces avant de terminer rapidement. Donc, il y a d'abord la chorale vendredi. Ça, c'est. Il y a pas un truc avant, non? C'est peut-être pas dans l'ordre alors, non? Non. En haut, tout au début, tu viens voir? Ah voilà, chorale. Donc, le prochain rendez-vous, c'est chorale. Il y a 18h30, en fait, on va répéter pour Montparnasse. 18h30 vendredi et 19h15 la chorale pour dimanche. Ça, il n'y a pas le. On a terminé hein, le cours d'apologétique le vendredi soir. Samedi à 14h30, on se donne rendez-vous ici pour partir à la gare ensuite. Et on fera un petit préparation pour être bien ensemble et chanter là-bas dans quelques temps. On emmènera des évangiles. Et donc, si vous voulez venir, sans même si vous ne chantez pas, vous serez les bienvenus.